Initiatives citoyennes, rencontres, festivités. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.
Les associations féministes appellent à un rassemblement samedi 4 juillet à 10h au Jardin Sud de la mairie de Villefranche-sur-Saône. Une mobilisation issue d'une coalition féministe nationale qui fut le point de départ d'une pétition réclamant une loi intégrale contre les violences sexuelles. L'intercollectif féministe de Villefranche-sur-Saône se mobilise ce 4 juillet pour exiger des actes concrets et des moyens à la hauteur de l'urgence concernant chaque féminicide, chaque infanticide et chaque violence. Une discussion avec les représentantes de l'intercollectif féministe des associations Femmes Égalité, Les Chouettes et Frais, Nous Toutes et Nouvelle Vague. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Moi, c'est Clémence. Je représente l'association des Chouettes et Frais, qui est un collectif écoféministe sur le Beaujolais Val-de-Saône.
Moi, c'est Chantal. Je représente l'organisation de Femmes Égalité, qui est depuis un certain temps sur Villefranche. Et je représente aussi Nous Toutes, qui n'a pas pu être présente ce matin.
Donc, Mylène, je représente Nouvelle Vague, un collectif féministe Villefranche.
Et Anaïs, pour Nouvelle Vague aussi. Et on représente aussi notre collègue du comité de vigilance des enfants placés.
Alors, je me permets d'expliquer, depuis la mort de la petite Liana qui a eu lieu début juin, il y a eu une énorme vague de protestations, de colère et d'indignation du traitement qui est fait à la question de l'enfance en danger et puis des femmes victimes de violences également. Et donc, vous savez que tous les lundis soirs, il y a eu un appel à se présenter devant les tribunaux. À Villefranche, il y a eu des groupes de femmes qui sont venues devant le tribunal de Villefranche régulièrement tous les lundis soirs. La coalition pour une loi intégrale contre les violences faites aux enfants et aux femmes, qui existe depuis un certain temps, cette coalition avait fait, avec l'aide de parlementaires, un projet de loi qui s'appelle le projet de loi, une loi intégrale à l'image un peu de ce qu'il y a eu en Espagne. Au début, on appelait ça loi cadre. Chaque année, les associations de féministes exigeaient une loi cadre. Cette loi cadre a été déposée entièrement au Parlement en décembre 2025 et avec cet événement, cette actualité, elle est remise à l'ordre du jour de façon impérative. Aujourd'hui, la marche de samedi, elle exige que cette loi soit passée rapidement à l'Assemblée nationale. Et la présidente de l'Assemblée nationale avait proposé de la faire voter au mois d'octobre, à la session parlementaire d'octobre. Entre-temps, le ministre Lecornu a dit qu'il allait passer quelques articles, quelques chapitres, mais pas la loi intégrale. Et il n'a pas parlé de budget. Une loi sans budget, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la marche de samedi matin, à Villefranche comme ailleurs, est importante pour rappeler cette question.
On va peut-être rappeler la loi intégrale, Clémence.
Oui.
Non, c'est important de le redire, je pense.
Oui, pour bien comprendre, je pense que c'est important d'en toucher deux mots. La loi intégrale, elle est vraiment contre les violences faites aux femmes et aux enfants, toutes sortes de violences. C'est une réforme globale qui va de la prévention jusqu'à la prise en charge des auteurs en passant par la justice. Ça comporte 78 articles et, comme on l'a dit, c'est porté par plus de 150 associations. Ça va agir sur la prévention, sur la protection, sur la justice, sur l'accompagnement, sur les moyens. Plutôt que de répondre à chaque drame de manière isolée, on va vraiment accompagner tout un tas de choses autour des victimes et des auteurs pour prévenir ce genre d'actes. Il y a plusieurs axes, hein. On est vraiment sur mieux prévenir en termes d'éducation, au consentement, sensibilisation dès le plus jeune âge, formation obligatoire des professionnels, que ce soit les enseignants, les médecins, les policiers, les magistrats, les travailleurs sociaux, etc. Donc tout ça, c'est sur la partie prévention. Et on a après d'autres volets qui sont mieux repérer les violences et faciliter les signalements. Les signalements, donc ces fameuses IP, les informations préoccupantes qu'on peut faire quand il s'agit de violences sur des enfants. On est aussi sur comment mieux protéger les victimes en termes d'hébergement, d'accompagnement psychologique, juridique, social, une protection plus rapide des enfants qui sont en danger et faire en sorte que la justice soit plus efficace, donc avec des enquêtes qui soient plus rapides, des magistrats et des enquêteurs qui soient spécialisés, une meilleure prise en compte de la parole des victimes, une motivation des classements sans suite, qu'il faut qu'on puisse mieux expliquer pourquoi il y a des classements sans suite, enfin, augmenter les temps de prévention qui sont aujourd'hui très courts sur certains sujets, mieux informer aussi les victimes tout au long de la procédure, et s'agissant des enfants, c'est les victimes mais aussi les parents protecteurs qui du coup sont les responsables légaux de ces enfants, donc avec beaucoup plus de visibilité sur où est-ce qu'on en est sur cette procédure. Mieux prendre en charge les auteurs aussi pour éviter les récidives, ce qui est un gros souci aujourd'hui dans notre dans la façon dont on gère en fait ces problématiques et tous ces actes de violence qui sont après des personnes qui sont laissées dans la nature et qui du coup sont à même de reproduire les mêmes schémas de manière répétitive et infinie. Et ensuite, bien sûr, des moyens, parce que tout ça, ça ne peut pas se faire sans moyens. Donc des moyens dédiés, des dispositifs qui sont déjà existants, mais qui ne suffisent pas parce qu'ils ne sont pas assez bien coordonnés entre eux ou pas suffisamment financés.
Alors quand on vous entend, la liste est longue, dans le sens où vous demandez d'aide humaine, en fait, et aussi la finance, dans un moment où justement on est plutôt, c'est plutôt compliqué. Chantal ?
Je peux répondre sur cette question parce que les associations féministes ont chiffré tous ces besoins, la coalition l'a chiffré aussi, à 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, le budget qui est consacré aux violences faites aux femmes est de 12,7 millions, ce qui fait 0,003% du budget national. Et les conséquences des violences aujourd'hui coûtent 9,7 milliards à la société. Si on fait de la prévention et qu'on demande 3 milliards d'euros, on y gagne aussi au niveau financier.
Ces 9,7 milliards, ils sont très bien expliqués dans un livre qui a été rédigé par Lucille Pétavin, Le coût de la virilité, où elle met vraiment en lumière tous les financements induits par des faits de violence faits par des hommes, que ce soit sur les femmes ou sur les enfants, mais aussi toute cette partie virile qui n'a pas d'équivalent au féminin. D'ailleurs, la virilité, c'est un mot qui est purement attribué au masculin. Donc avec aussi les violences, que ce soit dans les magasins, les excès de vitesse, etc. Et tout ça, ça a un coût pour la société, puisque pour ce qui est des violences faites aux personnes, il va y avoir du coup un suivi thérapeutique, psychologique, réparateur, ça a un coût, les coûts judiciaires, coûts d'incarcération pour les faits les plus graves, etc. Tout ça, ça a un coût énorme pour la société et c'est un essai qu'elle a réalisé, Lucille Pétavin, qui est extrêmement complet et tout à fait documenté, qui justifie ces 9,7 milliards d'euros qu'on pourrait économiser si toutefois on stoppait cette virilité induite et qu'on enseigne au plus jeune âge et qu'enfin on aurait des jeunes garçons qu'on éduquerait de manière plus civilisée, de manière comme on le fait aujourd'hui avec les jeunes filles et qui ferait qu'on aurait des conduites qui seraient moins à risque et on vivrait tous dans une société plus apaisée et ça nous coûterait moins cher au final.
Et en ce qui concerne effectivement les besoins de personnes, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de psychologues, on a besoin dans les tribunaux aussi de renforcer personnel.
Au niveau de la justice, par exemple, ce qui a été assez honteux, c'est que ce sont les magistrats qui ont été pointés du doigt pour des défaillances dans l'histoire de la petite Liana, alors que le syndicat de la magistrature a répondu très rapidement, 2 jours après, qu'il recevait dans les genres 90 décrets par jour avec des lettres de Darmanin qui leur demandaient mais sans aucun moyen. Ils n'avaient même pas le temps d'étudier les lettres de Darmanin et ils sont débordés parce que des moyens ont été supprimés depuis des années. Les budgets de la justice qui ont été augmentés, c'est pour créer des places de prison, mais pas pour augmenter les personnels dans les tribunaux. Donc c'est vrai que ça demande effectivement de reconsidérer tout cet aspect d'aide administrative et au niveau judiciaire. Et puis au niveau social, bien entendu, mais ça c'est un autre débat. Le social aujourd'hui est en manque d'effectifs et flagrant.
Au-delà de ça, je voulais dire que c'est pas forcément toujours, alors ça l'est pour bien des volets, mais pas toujours forcément une question de moyens, puisqu'on a aujourd'hui quand même un parti pris dans des décisions judiciaires qui sont des habitudes prises, qui fait que voilà, on a des juges qui prennent des décisions en faveur des parents agresseurs pour maintenir le lien à tout prix avec un enfant qui a été victime de violences, a été reconnue, jugée, et ça se passe sur nos territoires. Hein. On ne parle pas forcément de choses qui se passent à Paris, ça se passe ici en Calade. Des enfants qui doivent retourner chez leur père un week-end sur deux, la moitié des vacances, parce qu'on doit favoriser le lien, alors que cet homme a été condamné.
Et je pense qu'il y a des garanties quand même. Enfin, je veux dire, il doit y avoir derrière.
Pas toujours. C'est-à-dire qu'on va demander au père, par exemple, de suivre des stages parentaux. On va faire des enquêtes sociales. Mais alors, ça, c'est c'est quand même une vaste ironie, c'est que les enquêtes sociales, comme les enfants sont au domicile de la mère la plupart du temps, les enquêtes sociales se déroulent au domicile de la mère. Donc on a du coup une maman qui est du coup le parent protecteur, qui doit ouvrir sa porte à tout un tas d'intervenants et qui doit laisser entrer chez elle des personnes qui vont examiner sa maison, évaluer ses capacités parentales, etc. Elle va devoir raconter les violences faites sur ses enfants, les re-raconter à tout un tas d'intervenants et justifier finalement que soit elle ne ment pas, soit que ce que les enfants racontent est suffisamment caractérisé. Elle doit prouver en fait tout ce qui se passe. Et tout ça, c'est pas une question de moyens comme on l'évoquait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change le prisme. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte que les parents protecteurs, donc bien souvent la mère, hein, on va pas se mentir, n'aient pas à répondre de tout, alors que le parent violent, lui, ne répond de pas grand-chose. Et arrêtons de, à tout prix, maintenir le lien en disant on verra, peut-être que maintenant qu'il a été jugé, il a compris et ça va changer. Parce que bien des fois, en fait, on se rend compte, ça peut durer un an, deux ans, plusieurs années avant que l'enfant se remet à parler de choses qu'il vit du coup chez son père, sans la mère qui est là pour faire garde-fou. Et ça, c'est un drame qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui en 2026. Ça n'est plus possible.
Et d'ailleurs, je voulais juste dire que nous toutes exigeons aussi un plan d'action immédiat, enfin, pas attendre pendant des mois qu'il se passe quelque chose.
Nouvelle Vague, on veut soutenir cette loi intégrale parce que chaque année, il y a des centaines de milliers de femmes et d'enfants qui subissent des violences sexuelles, des violences conjugales, des harcèlements et des violences psychologiques. Et pourtant, en grande partie, des victimes ne portent pas plainte. Nous parlons souvent de féminicides ou des affaires les plus médiatisées, mais ces drames, elles ne sont pas le sommet de la pyramide des violences. Parce qu'à sa base, il y a les remarques sexistes, les humiliations, le contrôle, les violences psychologiques, le harcèlement, les agressions sexuelles. Toutes ces violences, elles sont liées. Elles s'inscrivent dans un système qui s'appelle le patriarcat, qui produit et banalise les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Donc une loi intégrale, c'est justement reconnaître ces violences, que ces violences ne sont pas des faits isolés, mais un phénomène systémique qui nécessite une réponse globale. Donc Clémence nous a rappelé en fait que la loi, elle doit prévoir la prévention, qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge à l'égalité, au respect du consentement et aux relations sans violence, qu'il faut ensuite mieux protéger les victimes. Cela signifie aussi un accueil digne dans les commissariats et les gendarmeries, avec davantage d'hébergement d'urgence, un accompagnement juridique, psychologique. Qu'il faut aussi renforcer les moyens de la justice, on en a parlé, et bien sûr les moyens financiers.
Et je rajouterais peut-être aussi les services d'enquête.
Sur les services d'enquête, je pense qu'on gagnerait aussi beaucoup de temps à ne pas ouvrir des enquêtes et passer beaucoup de temps sur les mères qui sont en recherche de protection de leur enfant déjà victime. Quand on se retrouve aujourd'hui, et c'est une aberration dans notre société, d'avoir, et je dirais même que c'est indigne de l'État, de laisser une mère être entendue par la gendarmerie ou la police et de devoir prendre ses empreintes, prendre des photos d'elle parce qu'elle a osé garder ses enfants sur un week-end qui était prévu chez le père, alors qu'elle sait pertinemment que le père est un homme violent et que ça a été d'ailleurs jugé, condamné, et que le père, du coup, dépose plainte parce que procédure, il faut le faire. On reçoit la mère, on l'interroge comme une victime, elle passe sur le banc des accusés parce qu'elle est hors la loi, parce qu'un juge aux affaires familiales avait décidé que ce week-end-là, les enfants iraient chez le père. C'est, je pense, une perte de temps colossale et c'est extrêmement violent aussi pour le parent qui n'a rien fait et qui doit répondre au simple fait de vouloir protéger ses enfants. Une chose aussi que je trouve aberrante dans cette société et cette façon de traiter les enfants victimes de violences et leurs parents, c'est que si la mère décide en conscience de garder son enfant chez elle, elle saura, comme je viens de l'expliquer, mais si elle décide de suivre les décisions de justice et donc les fameuses décisions du juge aux affaires familiales et remettre l'enfant chez le père, et qu'il se passe quoi que ce soit là-bas, eh ben elle sera aussi tenue pour responsable parce qu'elle savait que c'était un homme violent. Et dans tous les cas, en fait, on se retrouve avec une femme qui est confrontée à une prise de décision qui est impossible à résoudre par elle-même. Et dans tous les cas, on va lui dire, et ça arrive ici en Calade, on va lui dire, madame, dans tous les cas, vous serez fautive. Donc ça, c'est quelque chose qui est indigne de l'État. On devrait pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus acceptable pour accompagner les enfants, les mères.
Chantal, sur le plan local, Femmes Égalité, on est beaucoup plus sensibilisés par la situation des femmes des milieux populaires. On intervient beaucoup plus dans ce domaine-là, y compris la situation que Clémence décrit, on la rencontre aussi avec beaucoup de femmes. Il y a des familles monoparentales, beaucoup de femmes qui sont seules, en plus avec des moyens très précaires, et qui sont confrontées à ce type de situation. Donc on essaye de les accompagner aussi avec, comme je parlais tout à l'heure, de tandem, si on peut avoir des contacts avec tandem quand elles sont un peu disponibles. C'est une possibilité. Sinon, on fait beaucoup plus d'informations, de formations. On a créé des expositions, des quiz avec des questions, des formations sur les droits des femmes au travail, sur la question de la sécurité sociale, différentes questions comme ça. On travaille avec elles, on fait des réunions dans les quartiers. Donc c'est un petit peu ça, notre contribution localement sur ces questions. Et forcément, pratiquement toutes les femmes qu'on rencontre, elles ont des soucis de cet ordre-là.
Donc de la prévention, en quelque sorte, voilà. En amont,
prévention aussi, mais aussi les accompagner pour se prendre en charge les situations et se défendre.
Et c'est pour toutes ces raisons donc que vous appelez à se rassembler le 4 juillet.
C'est à 10h au jardin sud de la mairie, à côté vers le bassin, en face du marché. On ne marchera sans doute pas, peut-être que la canicule nous empêche de marcher, mais c'est un moment de prise de parole et de rencontre avec des personnes. Et il se trouve que devant le tribunal, on a rencontré beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, qui ont été très sensibilisées sur cette actualité et qui sont toujours mobilisées, je trouve, puisque lundi soir, on les retrouve encore devant le tribunal.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je voulais rajouter que les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité, qu'elles sont des choix de société et que nous pouvons faire le choix d'une société qui protège enfin les femmes et les enfants plutôt que de réparer les drames une fois qu'ils sont arrivés.
Initiative citoyenne, rencontre, festivités. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.